Chers amis, auditeurs du Radio Mouquette de Christophe Hague, bonjour. Je suis Tristan Farabet. J'ai déjà partagé avec Christophe mes convictions sur la place essentielle de l'intuition dans l'entreprise et dans le leadership. Je suis ravi de cette occasion de témoigner aujourd'hui sur un sujet très proche et qui m'est cher, la place des émotions dans ma pratique de dirigeant. J'ai vraiment pris conscience de l'impact des émotions dans la vie du dirigeant lors d'une crise qui a été l'un des épisodes les plus forts de ma carrière de leader et un moment de grande émotion. Un banal quiproquo de communication lors d'une interview dans les médias, attisé par diverses manœuvres politiques internes et externes, avait déclenché un emballement médiatique absolument incroyable. Dans tous les médias, l'entreprise était injustement stigmatisée et attaquée. Pour mettre un terme à cet emballement, le corporate réagit dans les médias d'une façon qui fut interprétée comme un désaveu public à mon égard. Ce qui créa alors une deuxième vague médiatique avec des attaques personnelles brutales. Le tout sur un simple malentendu. Cette crise, dure, fut bien sûr une période de doute pour mon équipe et pour moi. Étais-je toujours légitime? Notre stratégie était-elle juste? Jusqu'où irait le désaveu du corporate? Nos partenaires et nos actionnaires nous gardaient-ils leur confiance? Devais-je démissionner? Surprise, tristesse, dégoût, peur, colère, les émotions nous assaillaient. Tout semblait alors brutalement s'effondrer, alors même que mon équipe surfait sur des performances formidables et que rien ne nous avait préparé à une telle crise. Et tout aurait pu effectivement s'effondrer. Si les collaborateurs de l'entreprise n'avaient choisi de m'exprimer de façon très forte et spontanée leur soutien massif et solidaire. Un soutien qui nous a donné à tous une nouvelle force et qui nous a finalement permis de sortir renforcés de cette crise. Sans un lien émotionnel très fort entre les collaborateurs, l'entreprise et leurs dirigeants, cette manifestation de soutien n'aurait pas eu lieu. Et l'entreprise en serait sortie affaiblie. Cette expérience démontre la force que donne l'émotion, et c'est certainement une invitation pour tout leader à s'appuyer sur ce registre pour créer et renforcer ce lien émotionnel. D'ailleurs, l'émotion n'est pas réservée à la gestion de crise. Vous le savez, je le sais, la performance des entreprises est directement corrélée au niveau d'engagement des collaborateurs, et donc le succès d'un dirigeant à sa capacité à entraîner, à engager ses collaborateurs. Or, l'engagement, c'est d'abord de l'émotion. C'est un lien de nature émotionnelle entre les collaborateurs, l'entreprise et les dirigeants qui l'incarnent. Ce lien se matérialise dès l'étape du recrutement. Pour ma part, mes choix d'entreprise ont d'abord été des mariages d'amour. La fierté de m'associer au développement d'une marque mythique dans un cas, de savoir-faire exceptionnels et emblématiques de la France dans un autre cas. L'envie de contribuer à une ambition inspirante, un projet d'avenir. Le plaisir, devinez, de travailler avec des équipes qui partagent un même système de valeurs. Eh bien, pour un dirigeant, il est clé de cultiver ce lien et de le traduire en un haut niveau d'engagement, ce qui entraîne naturellement le leader à intégrer le registre émotionnel, car l'engagement se nourrit avant tout d'émotions. D'abord, quand il communique au quotidien, le leader doit savoir sortir du registre rationnel froid et exprimer ses émotions. Bien sûr avec contrôle, car n'oublions pas l'adage bien connu selon lequel « bad is stronger than good ». En d'autres termes, une émotion négative aura un impact plus fort qu'une émotion positive, ce qui suggère de chercher à maîtriser ses émotions négatives et à l'inverse, à amplifier l'expression des émotions positives. D'une certaine façon, le manager est donc acteur et porte un masque. Les Américains vont très loin dans ce domaine, avec la démonstration souvent délibérément exagérée d'émotions positives. La moindre réalisation est qualifiée d'amazing, outstanding, et le remerciement devient l'expression d'une gratitude infinie par des thank you so much. À l'inverse, on apprend au manager à refouler les émotions négatives, interdites d'expression, car il faut incarner une positive attitude. Cette approche, qui procède d'un principe d'efficacité managériale, fonctionne généralement plutôt bien, avec néanmoins deux bémols. D'abord, la nécessité de s'adapter à son environnement, car il existe, selon les régions du monde, des codes culturels très différents sur le plan de l'expression des émotions. Une même expression de fierté ou de gratitude pourra ainsi apparaître normale aux USA, irrespectueuse et prétentieuse en Asie, ou même ridicule en Europe. D'où la nécessité de s'adapter, à la fois en tant qu'émetteur pour exprimer ses émotions de façon intelligible, et en tant que récepteur pour lire convenablement les émotions qu'exprime l'autre, avec le bon décodage culturel. Les grandes entreprises internationales le savent bien, et prodiguent d'ailleurs souvent des formations à leurs managers clés sur la maîtrise de ces codes culturels. Le deuxième bémol, c'est la nécessité d'authenticité. Car l'engagement repose fondamentalement sur la confiance, et donc sur une forme de sincérité dans la relation. Il s'accommode ainsi mal d'émotions factices et de la perception de comportements manipulatoires. Nous évoquions tout à l'heure l'approche à l'américaine d'exagération des émotions positives. Vous avez certainement comme moi en tête des personnes qui la pratiquent à l'excès et dont les comportements totalement stéréotypés amusent en fait la plupart de leurs interlocuteurs qui ne sont pas dupes. La relation avec eux devient finalement artificielle, de façade, sans authenticité. S'ils sont dirigeants, leur crédibilité et donc leur efficacité de leader s'en trouvent alors réduites, ce qui est finalement nuisible à l'engagement de leurs collaborateurs. Car j'en suis convaincu, l'émotion authentique est au cœur de la relation entre l'entreprise et ses collaborateurs. Aussi, dans la pratique du leader, je pense qu'il faut chercher en permanence à mettre de l'authenticité dans la relation. À cet égard, l'utilisation de l'humour, voire parfois de la provocation, est souvent une bonne façon de créer de l'authenticité, en déclenchant des réactions émotionnelles qui libèrent les énergies positives et les tensions. C'est ainsi, comme je l'ai déjà raconté, que j'ai pu, dans certains entretiens de recrutement, créer volontairement une rupture, en feignant d'y mettre fin brutalement, par exemple, pour pousser le candidat à sortir d'un discours trop calibré et stéréotypé qui ne permettait pas de savoir qui il était en réalité. Voilà donc quelques clés que m'a enseigné mon expérience de dirigeant pour l'utilisation au quotidien de l'émotion authentique, comme un facteur d'engagement et un gage d'efficacité du leader. Mais attention, au-delà de la bonne utilisation de l'émotion dans ses pratiques quotidiennes, il est nécessaire pour un dirigeant d'avoir au préalable mis en place ce que j'appellerais les fondations émotionnelles du lien collectif, c'est-à-dire le socle sur lequel va se construire l'intelligence et l'énergie collective. Ce socle, c'est d'abord le partage d'un projet commun. Ma première préoccupation en prenant la direction d'une équipe a toujours été d'articuler et de communiquer une vision inspirante, qui donne envie et qui donne du sens aux efforts demandés à chacun. Et donc une vision qui intègre certes une dimension business, économique, rationnelle, mais qui va également sur le champ émotionnel. Vous connaissez, tout comme moi, des générations de cadres qui ont été frustrés de servir des projets unidimensionnels, purement centrés sur la création de valeur pour l'actionnaire. C'est une dimension importante et nécessaire de la réussite, mais insuffisante pour susciter l'adhésion et l'engagement derrière un projet. Je me souviens de mon désarroi lorsque, jeune manager il y a des années, je cherchais les mots pour embarquer mes équipes terrain dans le projet Building Shareholder Value sur lequel nous avions pour mission de les mobiliser, et dont la finalité affirmée était d'enrichir des fonds de pension bien éloignés de leur réalité. Aussi, j'ai vite compris qu'une vision, pour être inspirante, doit aller à la fois au-delà du registre rationnel et exprimer des bénéfices pour toutes les composantes de l'environnement de l'entreprise. Ses actionnaires, bien sûr, qu'il faut satisfaire, mais aussi ses clients, qu'il faut séduire, nous voilà encore dans le registre émotionnel, ses collaborateurs, qu'il faut engager, et les communautés auxquelles il faut donner envie d'accueillir l'entreprise sur leur territoire. C'est certainement encore plus vrai aujourd'hui avec les nouvelles générations, qui revendiquent du sens. Et c'est largement la raison pour laquelle la plupart des grandes entreprises développent et mettent en avant de façon croissante des engagements de responsabilité sociale et environnementale à la frontière du rationnel et de l'émotionnel. La deuxième brique clé de cette fondation émotionnelle du lien collectif que nous cherchons à créer, c'est bien sûr le système de valeurs partagées de l'entreprise. C'est-à-dire finalement ce qui va définir l'identité de l'entreprise et différencier le comportement de ses collaborateurs de ceux d'une autre communauté. Définir ces valeurs est un exercice qui exige une vraie réflexion partagée pour ne pas sombrer dans la banalité indifférenciée. Il s'agit de combiner pertinence et singularité. C'est ainsi que, dans mon groupe familial actuel, nous avons choisi de retenir parmi les quatre valeurs du groupe la valeur considération, qui reflète pour nous parfaitement cette forme d'humilité et de respect qui emprunte nos comportements dans l'entreprise et qui contribue au plaisir que nous avons de travailler ensemble. Pour le dirigeant, ensuite, il s'agit de saisir naturellement toutes les occasions de communiquer sur ses fondations émotionnelles pour renforcer le sentiment identitaire et l'intelligence collective de l'organisation. Et il n'est pour ma part pas une prise de parole dans l'entreprise que je fasse sans une référence illustrant notre vision et nos valeurs partagées. En conclusion, il est clair que les émotions jouent un rôle essentiel dans la pratique du leadership. En tant que dirigeant, assurez-vous donc que vous avez bien bâti les fondations émotionnelles du collectif, une vision inspirante et des valeurs partagées. Puis, utilisez vos émotions authentiques dans votre communication quotidienne. Vous mettrez alors l'émotion de votre côté pour engager vos équipes et pour les mettre en mouvement, en motio pour reprendre d'ailleurs l'étymologie du mot émotion. Donc vive l'émotion, arme fatale du leader, car sans elle il n'y a ni engagement ni mouvement. À très bientôt.